Ici, vous avez une image d'un extrait. Je l'ai prise parce qu'on aperçoit au fond un morceau d'image. Je crois que je suis presque sûr, je ne suis pas tout à fait certain, mais presque sûr que c'est une image d'un projet sur lequel je vais m'attarder tout à l'heure un petit instant, de Charles and Ray Eames, donc les deux designers, qui, deux ans plus tôt, en 1964, à la fois à l'exposition universelle de New York, avec Enro Saarinen, l'architecte finlandais, avait réalisé pour IBM donc cet espèce d'œuf incroyable, à l'intérieur duquel, justement, était montré un dispositif multi-écran qui représentait, qui figurait le fonctionnement de l'ordinateur. Et j'ai trouvé ça intéressant que, justement, par hasard, ce projet soit cité dans une des pièces des Nine Enigmas. Donc ici, on voit tout à fait, on a l'impression presque d'avoir un espace chantier. Hein, c'est véritablement un espace rempli d'objets de construction, en quelque sorte. C'est vraiment cette idée qui vient le plus naturellement à l'esprit. Hein, c'est comme un chantier de construction où des objets sont... des tas d'objets sont déplacés d'un endroit à un autre, alors même que simultanément, toutes sortes de références sont divulguées dans l'espace, notamment un commentaire d'un film d'Antonioni, dont on ne voit pas, a priori, la relation directe avec ce qui se passe sur la scène. Voilà d'autres images de cette scène. Et on passe donc à la septième performance de John Cage, Variation 7. Donc il y a une série de 8 variation pieces qui sont réalisées entre 1958 et 1967. Donc ici c'est la 7e, c'est l'avant-dernière. Toutes ces œuvres ont pour point commun, en quelque sorte, l'exploration de l'indétermination dans la composition musicale. Ici vous avez une note. Parmi les notes réalisées par Cage au moment de la conception de cette pièce, donc qui dit qu'il n'y a pas de partition, pas de partie, qu'on peut manipuler de façon libre les différents instruments qui vont servir à la fabrication de cette performance, et qu'on va voir tout de suite. Vous avez ici le diagramme qui contient d'ailleurs aucune indication de type scénographique. Qui donne simplement la répartition des différents éléments électroniques entre la régie, le balcon, et enfin les différents espaces en fait de la scène. Alors voilà le dispositif véritablement le plus étonnant. Donc il s'agit d'une table sur laquelle sont disposés un certain nombre d'objets, notamment 20 radios, 2 canaux de télévision, 30 cellules photographiques en dessous des tables, donc c'est ce qui fait la dimension disons lumineuse de cette pièce. Et chaque fois que là aussi un performeur passe devant l'une ou l'autre de ces cellules photographiques, des sources sonores se trouvent déclenchées ou au contraire interrompues, ce qui produit donc toute cette dimension aléatoire et indéterminée de l'expérience sonore proposée. Les sources sonores sont uniquement des sources sonores captées au moment même, donc sont diffusées en temps réel pendant la performance. Ils sont reliés à toutes sortes de sources. Comme je disais, il y a 20 radios et donc il y a des bandes FM qui sont directement ondes courtes et d'ailleurs ondes longues également qui sont reliées à ces radios. Il y a des lignes téléphoniques qui sont elles-mêmes reliées à différents endroits dans New York. Il y a des microphones, il y a des appareils électroménagers, il y a des générateurs de fréquences comme des compteurs GGR par exemple. Il n'y a pas d'instrument de musique en tant que tel. La première idée du projet quand donc il était prévu que le projet se réalise en Suède, était de réaliser, d'utiliser la technologie satellite de communication télévisée transatlantique. En quelque sorte, Cage conserve de cette idée de présence à distance à travers donc ces radios et ces lignes téléphoniques qui permettent de retransmettre en direct sur scène, en temps réel, des sons captés à l'extérieur du lieu de représentation. Donc il s'agit d'amplifier aussi toutes sortes de sons inaudibles, des sons ténus qui sont dispersés donc, dans l'espace. En quelque sorte, c'est ces tables, hein, ce dispositif audiovisuel qui fonctionne comme une partition, hein, une partition in process, hein, on assiste à l'œuvre en train de se faire et qui ne sera jamais deux fois la même. C'est une plateforme, hein, et lui, il la décrivait d'ailleurs comme un bar, it was like a bar, like serving drinks to the audience. Donc les téléphones sont reliés à des endroits tels que la salle de presse du New York Times, le studio, enfin l'atelier de Merce Cunningham, un zoo, etc. Donc il s'agit là aussi d'une expérience immersive, hein, très bruyante, on la compare au bruit du métro de New York. C'est comme une usine, une espèce d'espace de production, hein, l'activité de ces performeurs au milieu de la plateforme sont projetées ou rétroprojetées sur des grands écrans qui sont autour de la scène. Je précise que donc il y a eu deux moments, deux performances pendant ces 9 soirées, donc un premier soir et un deuxième soir, et lors de la deuxième séquence, les spectateurs étaient invités à se rapprocher de cette plateforme et à eux-mêmes manipuler un certain nombre de ces choses mises à disposition, et donc renforcer complètement évidemment le déclenchement de ces cellules photoélectriques qui donc déclenchaient de plus belle la dispersion sonore inhérente à cette proposition. Ici, vous avez un écran avec une ombre, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, mais on retrouve la même idée, finalement, chez Tudor, donc d'une génération, là c'est une génération qui n'est pas liée à la traduction du phénomène sonore en phénomène visuel, comme Tudor le souhaite. Hein. Par exemple, dans une pièce, Tudor réalise, branche les capteurs sonores sur les fréquences télévisées, de telle sorte que chaque fois que des types de sons certains types de sons sont émis, le grain du signal télévisé est transformé et donc produit des espèces d'images abstraites aléatoires. Bon, ici c'est différent puisque c'est plus des images analogiques, c'est le déplacement même des performeurs sur l'espace de la plateforme qui génère des images aléatoires d'ombre de même, en souvent très très grand format d'ailleurs, tout autour de la scène. Lucy Datchild, voilà encore une autre fondatrice de la Johnson Dance Company qui se retrouve ici avec une pièce qui ne fait appel à aucun danseur à proprement parler, puisque les mouvements sont dictés uniquement par ces espèces de sauts, c'est des sauts de pompiers dispersés sur des grands triptyques et qui actionnent. Enfin, qui du fait de leur mouvement actionnent un sonar. Ici vous avez une image d'un sonar qui donc traduit les ondes électrique émise par le mouvement en fréquence sonore véritablement, et donc ils diffusent, ils sont amplifiés dans tout l'espace. Donc, si vous voulez, il y a une double opération qui est produite, à la fois la transposition, pour le coup, du mouvement en son, du mouvement de ces objets en son matérialisé grâce à l'interface que permet ces sonars, et d'autre part, la traduction en image de ce son, de ces sonorités, grâce à des espèces d'oscilloscopes qui retranscrivent sous une forme graphique le type de son émis par ces sonars. Par ailleurs, il y a une machine qu'on voit ici en partie, on ne voit pas le bas, malheureusement j'aurais dû mettre le bas, qui s'appelle The Ground Effect System, qui est une machine qui permet de transformer l'aliment en son, les vibrations du sol. Donc là, je vais dire juste une phrase où elle décrit son projet. Il s'agissait de making the animate nature of the electrical frequency, donc de transformer la nature des fréquences électriques visibles à l'œil humain, donc de rendre visible en fait les fréquences électriques qui sont par nature imperceptibles, donc toutes ces ondes qui habitent l'espace en quelque sorte, mais dont on se rend pas compte, donc on peut pas véritablement constater, les matérialiser par le biais de cette amplification, cette traduction et cette amplification par le son, et donc de montrer en quelque sorte que cette caractéristique inhérente en quelque sorte de l'espace, c'est d'être rempli en quelque sorte d'ondes électriques, de fréquences électriques, peut permettre non seulement de générer du son, mais peut être révélé par le mouvement. Et donc il y a pour une chorégraphe ici une source de découverte importante, puisque c'est l'idée que l'espace, tout aussi inerte soit-il en quelque sorte, contient potentiellement en quelque sorte une grande diversité de mouvements. Il suffit simplement de l'activer en quelque sorte, de le mettre en mouvement justement, de le faire s'animer pour le révéler. Alors la pièce sans doute une des pièces les plus spectaculaires, c'est celle de Robert Whitman, qui est sans doute la plus difficile à décrire, puisque c'est la plus visuelle. Robert Whitman est un des tout premiers artistes dans les années 60, au tout début des années 60, à utiliser des projections de films dans ses performances. Hein, c'est un des premiers artistes véritablement à utiliser le film comme média principal, notamment à travers un film qui a connu un certain succès l'année précédente, en 65, qui s'appelle Prune Flat, où était projeté sur des écrans le corps de femme vêtue de blanc, qui créait une confusion entre la représentation filmée des corps sur les écrans et la présence devant ces écrans de corps de danseurs vêtus de la même manière, qui se confondaient et qui jouaient d'ailleurs les mêmes gestes, la même chorégraphie que les femmes représentées dans le film. Donc un jeu comme ça entre bidimensionnalité et tridimensionalité qui lui avait valu un certain succès. Et ici, dans cette pièce, qui avait été montrée d'ailleurs à plusieurs reprises les mois précédents, il s'agissait pour lui de jouer sur la relation entre deux types d'origine d'image, des films en 16 mm projetés depuis ces voitures stationnées dans le grand espace de l'armoirie, qui servaient donc de projecteurs, et des caméras vidéo qui filmait en circuit fermé des différentes scènes, différents moments de la performance. Donc c'est ce rapport entre temps réel de la vidéo et temps enregistré du film préenregistré par définition qui constituait en quelque sorte le cœur de la réflexion de Wittmann dans ce projet. Le diagramme montre une séparation nette entre image et son. Et en fait, là, ce qui l'intéresse, d'après une technologie, c'est d'avoir une véritable régie image et son qui nous permet de mixer en direct les différentes sources vidéo et audio de la performance. Donc, c'est cette juxtaposition des temporalités du cinéma et de la vidéo, enregistrement et temps réel, qui constitue le cœur du projet. Bon, c'est très difficile d'avoir des images dignes de ce nom. D'ailleurs, au niveau de la reconstitution même, je trouve que c'est un des projets qui est le plus difficile dont il est le plus difficile de se rendre compte de ce que pouvait être véritablement la performance à l'époque. Et puis donc, enfin, la dernière performance, donc celle de Fellström, qui était sans doute la plus narrative de toutes, mais aussi la plus quantitativement, celle qui rassemblait le plus d'éléments différents, puisqu'elle était constituée de 9 parties, et la durée était, semble-t-il, très très longue. Les commentaires ne sont pas fiables, donc certains disent que chaque partie constituait 100 minutes, ce qui me paraît quand même beaucoup, parce que ça voudrait dire que l'ensemble de la performance aurait duré plus de 9 heures, même plus que ça, parce que 100 minutes fois 9, ça fait beaucoup plus que ça. J'arrive pas à y croire, mais en tout cas, c'était très long. Il y a énormément d'images projetées, de sons, de sculptures, par exemple de mousse, en mousse grimpante, enfin, toutes sortes d'éléments tout au long de cette performance. Ce que je retiendrai, c'est dans l'extrême profusion des éléments caractéristiques de cette pièce, de cet aspect d'accumulation extrêmement fragmenté et décousu en fait de ce projet, c'est l'importance d'un motif qui est ces cartons qui reviennent très très régulièrement tout au long de la pièce, et qui vient scander en quelque sorte non seulement les différentes séquences, mais les différents moments des différentes séquences de cette pièce, et qui notamment relate des analogies entre des qualités développées par certaines personnes et la machine à calculer, notamment ce fameux, qui est un personnage réel, J. Lydia Buxton, qui est une sorte d'analphabète calculateur prodige du début du XVIIIe siècle, qui était capable de résoudre des problèmes mathématiques extrêmement complexes uniquement en calculant de tête, faisant fonctionner pendant de très longues périodes son cerveau et donnant des résultats absolument corrects en définitive. Tout au long de la pièce, il est question, alors là par exemple c'est J. Lydia Buxton en la personne de Rauschenberg qui joue son rôle, donc qui est projeté dans quelque part sur cette scène. Ici on a un moment de séquence où on demande à ce J. Lydia Buxton Rauschenberg de calculer, de faire des calculs arithmétiques assez invraisemblables liés à l'économie américaine. Et puis il y a d'autres exemples. Par exemple, cette Hongroise qui a été emprisonnée et qui refait dans sa tête tout le parcours d'un voyage de jeunesse, pas à pas, de façon absolument exacte, en répétant chaque mouvement, chaque pas qu'elle a pu faire pendant toute la durée de ce voyage. Ou alors, il y a un autre exemple qui est celui de ces deux, jeunes autistes qui, en fait, sont capables de retrouver le jour exact de la semaine, d'une date parfois très très ancienne, sans se tromper, et donc en étant toujours, en tombant de façon parfaitement, parfaitement juste. Il est très intéressé par ces espèces de références récurrentes au calcul, aux capacités de reconstitution, de restitution, aux exploits en quelque sorte inhumains, de ces états paranormaux, en quelque sorte des capacités humaines hors normes, qui rapprochent l'homme de la folie des machines et des robots. Il y a dans cette performance un moment qui me semble absolument clé. Alors, je voulais vous... Bien, je reviendrai ça. Ici, c'est le... je voulais simplement dire que ici, on a vraiment une il le dit d'ailleurs lui-même, que il s'est intéressé, il établit un parallèle direct entre ces personnes qui sont a priori des douées de facultés intellectuelles assez assez normales, mais dotées de capacités de mémorisation supérieures, et l'utopie d'une machine universelle, donc de cette machine universelle qui est l'ordinateur. Il fait ce rapprochement direct entre capacité organique, en quelque sorte, de l'homme à s'égaler à la machine et la naissance de l'ordinateur. Et au même moment, je disais, donc, en 64, IMSS réalise pour IBM, pour l'exposition universelle de New York, un dispositif que je ne vais pas décrire là, mais qui est absolument vraiment fascinant. Donc vous voyez ici l'intérieur avec les 15 écrans qui recouvrent la moitié de cette œuvre que vous avez vue précédemment et qui décrivent de façon analogique la façon dont un ordinateur résout les problèmes de calcul, de la même manière qu'un cerveau humain face à des tâches très très quotidiennes, comme par exemple le fait de calculer, de décider comment une table va être occupée par les convives invités à un dîner, par exemple. Il montre comment finalement l'ordinateur n'est rien d'autre qu'une espèce de cerveau humain machinique, susceptible de résoudre des problèmes quotidiens tels que ceux qu'on réalise tous les jours. IMSS, sans m'attarder là-dessus, va constamment revenir sur cette question de la machine à calculer. Ici, c'est une exposition qui s'appelle The Computer Perspective, réalisée en 71, qui est une extraordinaire exposition, qui est une histoire de la machine à calculer depuis les premières expériences de Pascal au XVIIe siècle. Il y a toute une réflexion, je dirais, propre à la culture américaine de ce début des années 60 sur ce qui va devenir la machine référent de la fin du XXe siècle et bien sûr d'aujourd'hui. Je vais y revenir un petit peu tout à l'heure, mais parmi l'ensemble des références qui parsèment la pièce de Falström, il y a aussi cette citation du film de Wesley Barry de 1962 qui s'appelle The Creation of the Human Race, où il est question là aussi d'un rapport entre humain et robot, hein, d'une sorte de transposition à la machine de caractéristiques humaines, et donc où on trouve cette espèce d'aller-retour entre corps organique et corps machinique. Il est d'ailleurs question dans le commentaire que fait Falström de the mother, ce qu'il appelle the mother computer, donc la mère ordinateur, parmi les différentes images qu'on peut voir, il y a notamment celle-ci, les machines prennent le pouvoir. Donc avec une espèce de, de tendance qui n'est pas absolument pas visible dans les autres performances, beaucoup plus satirique, voire critique, à l'égard, une espèce d'inquiétude sourde à l'égard de ce que cette montée en puissance, en quelque sorte, de la technologie dans la vie quotidienne est susceptible peut-être d'avoir pour conséquence pour la société tout entière. À l'inverse de John Cage, comme je disais tout à l'heure, qui au contraire participe pleinement de cette utopie machinique, voyant dans l'ordinateur une manière de sauver, en tout cas de reconstituer une nouvelle civilisation, un nouveau monde. Ici c'est beaucoup plus sombre chez Hallström. D'ailleurs, la conclusion de la performance nous renvoie à la mort et tout un côté comme ça assez macabre. Alors, voilà pour les images en gros de ces performances. Je suis allé assez vite volontairement parce que c'était pas forcément le but. Ce qu'il faut retenir, à mon sens, c'est la dimension technologique. Donc, en quoi ça consiste la dimension technologique dans les nanites ? Dans quelle mesure, parce qu'on a souvent reproché dans les commentaires, on lit beaucoup de... finalement, les gens sont assez déçus parce qu'ils ont le sentiment que, précisément, la technologie pourrait être beaucoup plus présente, beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus visible qu'elle ne l'est en réalité. Et en réalité, effectivement, elle est sous-jacente, en fait. Elle constitue un réseau sous-jacent, mais qui est pourtant absolument déterminant, puisque, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est un véritable environnement électronique auquel on a affaire, mais un événement électronique qui ne produit pas des effets extrêmement spectaculaires, si ce n'est des effets finalement invisibles. Hein. Le fait de déclencher à distance le mouvement de plateforme, le fait d'allumer ou d'éteindre la lumière, finalement, pourrait être des choses faites de façon mécanique, de façon, analogique, sans passer par la technologie informatique en tant que telle. Donc, ce n'est pas spectaculaire en tant que telle, et pourtant, c'est ce qui fait la spécificité de ces projets, dans la mesure où c'est ce qui les rend autonomes, en quelque sorte. Hein. C'est ce qui les rend indépendants, en quelque sorte, autorégulés, hein, comme des systèmes autorégulés, indépendant de véritables décisions, de programmation, si vous voulez, humainement décidées. En quelque sorte, il s'agit de fabriquer des environnements qui s'autogénèrent ou qui autogénèrent leurs propres effets à partir d'un certain nombre de critères ou de cadres qui leur sont, pré-programmés. Et il y a une sorte d'autogénération, hein, systémique de chaque univers, de chaque petit monde que constitue chacune de ces performances. Alors, comme je disais, les ingénieurs sont essentiellement des membres du laboratoire Bell et qui travaillent dans certaines directions, notamment le Synthetic Speech Computer, donc le fait d'essayer de trouver un équivalent machinique de la parole. Par exemple, il y a parmi eux essentiellement des spécialistes d'informatique, et notamment les premiers spécialistes des programmes informatiques de numérisation et de traitement du son. Ces programmes qui vont être utilisés, qui sont déjà utilisés depuis les années 50, en fait, à l'Université de Chicago, dans le traitement de la composition musicale, mais qui vont avoir des effets publics, disons, uniquement à partir des années 70. Le Bell's Lab, c'est l'invention du laser, c'est l'invention de la télécommunication par satellite, c'est l'invention du système informatique Unix, donc ce système d'exploitation multi-utilisateur et multitâche. C'est c'est l'invention de ces systèmes de convertisseurs du son en lumière, du mouvement en son, d'image en son, etc. C'est l'invention de la télécommande, de la commande à distance. C'est les capteurs sonores, c'est donc toute la technologie des micros sans fil et de la téléphonie mobile. C'est les hologrammes, c'est les lasers, etc. Dans le cadre de Daylight Limning, ce qui est véritablement, enfin ce qui fait la caractéristique technique la plus spécifique, c'est ce qu'ils vont appeler le Theatrical Electronic Environmental Module, donc le TEAM, un réseau qui devait fonctionner comme une sorte de connecteur universel où tout pouvait éventuellement être connecté à tout, c'est-à-dire produire des effets identiques à partir de n'importe quel input. On déclenche de la lumière et à partir du fait de déclencher un interrupteur, on peut déclencher tout ce qu'on veut du mouvement, du son, et inversement, à partir d'un mouvement, on peut déclencher du mouvement, du son, de la lumière, etc. Et donc que chaque type d'input, quelle que soit son hétérogénéité, quelle que soit sa spécificité, puisse être traductible en n'importe quel autre type d'output. Donc une espèce de convertisseur universel. Et en fait, le TEAM, le Theatrical Electronic Environmental Module, ce module électronique, est véritablement ce qui fait, en quelque sorte, la particularité électronique, la particularité technologique des 9MNI. Il permettait de connecter, c'est ce qu'on voit dans les diagrammes, plus de 250 à 300 éléments techniques différents, des encodeurs, des décodeurs, des amplificateurs, des relais électroniques, des émetteurs, FM, des commutateurs, des cellules photoélectriques, etc. Mais comme on l'a vu, chaque pièce particulière, chaque performance particulière insiste, privilégie un élément particulier, le traitement des signaux sonores, la téléprésence, les systèmes en real time, donc les circuits fermés vidéo, etc. Et donc, avec toute cette technologie, on est véritablement au cœur de ce qui va constituer la préhistoire technologique de l'informatique, c'est-à-dire la programmation, la mémorisation, la transformation d'un média en un autre, donc la traductibilité, si vous voulez, numérique des éléments les uns dans les autres, les logiques combinatoires, aléatoires, etc. Et d'une certaine manière, on peut dire que les 10 spectacles donc, fonctionnent comme une forme de figuration, hein, c'est ce que je propose en tout cas, une sorte de figuration des logiques systémiques cybernétiques propres à ces technologies-là. Le terme de cybernétique, hein, que vous savez, totalement lié à, disons, à la technologie américaine, donc c'est Norbert Wiener qui est, disons, l'inventeur de ce terme, qui désigne en fait la science des systèmes autorégulés, simultanément à Claude Shannon, le père de la théorie de l'information, qui, en fait, pendant toute cette période, depuis la guerre, en fait, depuis 1941, jusque dans les années 70, jusqu'en 72 exactement, travaille pour précisément les laboratoires Labs, les laboratoires Bell, pardon. Donc, Wiener et Claude Shannon, le père de la cybernétique et le père de la théorie de l'information, qui sont les deux théories, disons, fondamentales pour l'invention de l'informatique, sont, disons, on peut dire, les théoriciens sous-jacents, on peut dire, à mon sens, très clairement, de ces 10 performances. C'est la science, la cybernétique peut être décrite comme la science des analogies maîtrisées entre organismes et machines. C'est exactement ce à quoi on a affaire ici, et notamment cette relation homme-robot, homme-machine, homme-objet, dont j'ai essayé de dire que c'était une des caractéristiques fondamentales des pièces montrées ici. La clé de la cybernétique, c'est la relation entre système gouvernant et système gouverné, fondée sur la rétroaction et le feedback. Hein. Donc c'est bien cette idée qu'une chose en induit une autre en retour, hein,